enquêteur
qui se met en chasse et en enquête sur la subjectivité des acteurs qui veulent interroger pour leur demander ce qu'ils en pensent et ce qu'ils en veulent, c'est qu'il faut qu'ils aient envie de nous parler, premièrement. Il faut qu'ils sachent pourquoi on leur pose la question, deuxièmement. Dans quel espace on est, nous, chercheurs, troisièmement. Est-ce qu'on est du côté de l'État ou non? Et nous, éthiquement, qu'est-ce qu'on va en faire et pourquoi on leur demande? C'est-à-dire qu'il faut... Nous sommes en mise en demeure d'être au clair sur nos finalités d'enquête, sur quelque chose qui semble pourtant aussi simple que de savoir ce que les gens pensent de ce qu'ils ont fait. Deuxième exemple, le CPE. Le CPE, je trouve ce mouvement assez intéressant parce que il y a plusieurs côtés. Il y a l'article de Baudrillard sur les événements voyous, que j'ai trouvé fort amusant, qui expliquait qu'on pouvait regarder le CPE de façon, de face et de profil, et qu'il n'y avait pas la même attitude de face et de profil, et pas le même visage. Alors, on va le prendre de face, pour parler comme Baudrillard, et qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps? On voit une mobilisation sur un objet, qui est un objet qui concerne le droit du travail, la mise en cause du droit du travail, la précarisation d'une classe d'âge, l'institutionnalisation de la précarisation d'une classe d'âge, parce que la précarisation, de fait, elle n'a pas attendu le CPE, la légitimation d'une stigmatisation, d'une discrimination fondamentale. Et sur cette base-là, et sur cette revendication et cette subjectivité-là, se construit un mouvement d'une puissance, d'une puissance de rassemblement considérable, qui va agréger les forces syndicales classiques et amener à ce qu'on a vu, c'est-à-dire des manifestations avec des centaines de milliers de personnes, quelque chose d'extrêmement impressionnant, mais qui, dans sa forme, dans ses revendications, dans sa façon de négocier avec l'État, n'est pas neuf. On est quelque part encore sur un terrain qui est un terrain de la lutte contre la décomposition du fordisme. Bon. Alors, jusque-là, tout va bien. Et puis, il y a l'anomalie. L'anomalie, c'est qu'à la première manifestation nationale étudiante, on voit apparaître des groupes de jeunes qui n'ont pas du tout le même usage de l'espace public, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la rue, ils sont sur les trottoirs, ils ne marchent pas lentement, ils courent, ils ne sont pas derrière des banderoles, ils arrachent les portables, qui tournent autour des manifestations et qui créent une ambiance qu'on avait déjà connue dans les manifestations précédentes, notamment les manifestations lycéennes l'année dernière. Un climat de grande violence, de tension extrême, tous ceux qui y étaient peuvent en témoigner, j'en ai peu connu de ce type, notamment aux Invalides, à la fin de cette dernière manifestation. Une violence qui partait d'un seul coup, entre manifestants. Ce n'est que la première étape de l'anomalie, parce que la deuxième étape de l'anomalie, c'est quand même que la manifestation nationale suivante se déroule sous la protection de la police. C'est comment symboliser mieux le fait que les formes traditionnelles d'activité militante et de mobilisation sur le terrain du fordisme sont à l'intérieur de l'État. Elles se retrouvent prises dans une logique de sécurisation au sens sécuritaire, de traitement policier, de clivage à l'intérieur des classes populaires. Sur le terrain revendicatif. C'est extraordinaire, enfin c'est extraordinaire, on peut le dire maintenant, moi je l'ai ressenti, j'ai ressenti ça comme une violence pire que les jeunes, et que les agressions de la manifestation. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a visiblement, il y a du neuf, il y a du vieux, il y a du neuf, et tel que je vous le présente, le neuf ne se présente pas forcément sous le jour le plus sympathique et le plus rassurant, et on ne sait pas trop quoi en fait. Sauf qu'il n'y a pas eu que ces mouvements-là, et il n'y a pas eu que les formes traditionnelles, manifestantes, en représentation qu'ont été les manifestations dans les grandes avenues de Paris, il y a eu d'autres formes de mobilisation qui ont été un peu le cœur du mouvement étudiant, en tout cas, et puis il n'y a pas eu que le mouvement étudiant. De la même façon que j'ai passé un certain nombre de nuits dehors en novembre, j'ai passé à peu près toutes mes matinées, dès 7h du matin, pendant le mouvement contre le CPE devant le lycée de mon fils. Bon, je transforme, je vous dis tout de suite, j'ai transformé ça en situation d'enquête, mais globalement, dans un premier temps, c'était quand même pour que ça se passe pas trop mal, hein, parce que mon fils, que certains connaissent ici, avait décidé que c'était lui qui bloquerait le lycée, avait trouvé une mine de grilles diverses et avec lesquelles il bloquait régulièrement et non sans difficulté avec l'administration le lycée, et il l'a bloqué tous les jours. Et j'ai observé un certain nombre de choses que je trouvais là qui donnent à l'anomalie des dimensions un peu plus ouvertes. Premièrement, j'ai observé des parents d'élèves, souvent militants politiques ou syndicaux, désespérés pendant une semaine, 15 jours, 10 jours, les lycéens ne font pas d'AG. Ils ne se réunissent pas pour discuter, pour avoir des échanges linguistiques rationnels, pour créer un espace public, politique, traditionnel, pour discuter de ce qu'ils allaient faire. Et pourtant, ils agissaient. Bon. Et pourtant, le blocage avait lieu. Et mon fils n'était pas tout seul. Et l'espace de mobilisation, l'espace d'échange, l'espace de décision, c'était pas l'Assemblée Générale. C'était SMS portable, Internet, etc. Blog, machin. Deuxièmement, une fois qu'ils ont bloqué le lycée, ils partent pas en manifestation. Ils restent et ils bloquent le carrefour à côté où passe la National 1. Ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que ça met belle pagaille. Et puis, ils sont rejoints par le lycée professionnel d'à côté. Là, l'anomalie s'élargit encore plus. Ils sont rejoints par le lycée professionnel d'à côté où il y a leurs copains de collège. Ils étaient au collège ensemble. Alors, il y a eu la sélection, certains sont en seconde, et d'autres en seconde. Certains vont vers des bacs S, d'autres vers des bacs pro, mais enfin bon, ils se retrouvent, ils disent bonjour, ça y est, l'autre. Les uns sont en grève, les autres sont en grève, tout le monde est ensemble, et tout le monde se retrouve ensemble au milieu du carrefour de la N1, j'y reviens. À ce moment-là, la police arrive, dans un premier temps, pour empêcher un accident avec les voitures. Ça vaut mieux. L'automobiliste énervé à ce moment-là. Mais dès que la police arrive, le comportement des jeunes, plus ceux du collège Bartholdi que ceux du lycée Paul-Éluard, mais en fait un peu les deux quand même, est assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils foncent dessus. Pas en courant, en marchant, ils s'arrêtent à 50 cm, à ce moment-là les cailloux commencent à arriver, jusqu'à ce que les flics reculent de 200 mètres. Et appellent des renforts. Quand les renforts arrivent, on remarche. Enfin, je résume beaucoup, hein, parce que ça commence à 7h du matin, ça termine en général vers 12h30. Donc, on remarche vers la police, et malgré les états d'âme et les conseils de prudence et les mots de modération des quelques adultes présents, dont moi, on arrive à une situation d'affrontement, mais un degré au-dessus vu les gens qui sont arrivés, c'est-à-dire lacrymogène, flashball, etc. Et à ce moment-là, toute la population lycéenne se replie devant le lycée. Et là, on apprend que ceux qu'on avait vus que comme des ombres au mois de novembre, ceux qu'on avait vus avec des capuches s'échapper d'un seul coup, de faire courir la police en s'amusant beaucoup, ben ils ont un visage, ils sont très sympathiques, ils ont beaucoup d'humour. Et alors, ils ont une maestria pour retourner une voiture et mettre le feu, qui est assez extraordinaire. On en a brûlé 3, quand même. Enfin, eux, ils en ont brûlé 3, moi j'étais là, j'essayais d'empêcher, mais rien du tout. Hein. Alors, sans tension entre nous. Sans tension entre nous. Qu'est-ce que j'en tire? J'en tire là que, là, vous aviez un autre point de jonction entre le mouvement CPE et le mouvement de novembre. Un point de tension non conflictuel, comme dans les manifestations. Un point de jonction possible parce que les jeunes des quartiers, les jeunes des banlieues, avec tous les guillemets que vous voulez, ces jeunes qui avaient mis le feu aux voitures, ou qui avaient été d'accord, ou qui avaient aidé, ou qui avaient regardé en s'amusant, ou etc. en novembre, ils étaient là et ils avaient l'occasion de mener la totalité du mouvement, y compris les lycéens plus classiques du lycée Paul-Éluard, sur leur terrain, au sens de sur leur type d'action, et sur leur contentieux. Je vous dis, pas de manif, pas de banderole, affrontement avec la police. Les mêmes Vous voulez transporter cette situation-là où ils sont sur leur terrain et ils peuvent emmener le mouvement sur leur terrain à eux, vous les transportez à Paris au moment d'une grande manifestation, je ne suis pas sûr que les mêmes ne se retrouvent pas sur les trottoirs en train de voler les portes. Il n'y a pas de cloison étanche. Il y a des situations différentes, il y a des territoires différents, et il y a, et ça sera mon dernier point sur ces questions-là, il y a des usages de la ville différents. Parce que il y a eu les grandes manifestations, sur des formes, notamment dans les cortèges chamicaux, qui ont connu leur apogée à la fin des années 70, avec le maximum de mise en scène de la rue comme théâtre de la mise en scène de rapport de force, les ballons, la sono, tout ça. Il y a une théâtralité de la manifestation, une symbolique très très forte, qui a connu son apogée du point de vue de la mise en scène de la fin des années 70, que c'est le début sur la sidérurgie, en gros, où ces formes-là ont été inventées, qui était toujours là, mais qui n'était pas que là, parce que dans le cortège, il y avait visiblement deux cortèges, et le cortège étudiant était quand même plus fluide, plus distendu, et plus distendu du point de vue de sa consistance collective, plus distendu du point de vue des mots d'ordre, comme s'il était en train de vivre la fin d'une forme d'usage de la ville, du point de vue de la mise en scène des rapports de force. Mais il y a eu un autre usage de la ville dans le mouvement. Le maître mot du mouvement, c'était blocage. C'était pas mobilisation brute, c'était blocage. Blocage des facs, blocage des nœuds de communication, et dans les 15 derniers jours, ce qui l'a emporté dans le mouvement collectif, du point de vue de l'action, ce sont les blocages. Ce ne sont pas les manifestations. Et les casseurs ont disparu. Peut-être parce que quand on bloque une gare, le rapport avec la police retrouve une logique qu'on n'avait pas quand on était sous la protection de la police pour manifester. Peut-être. En tout cas, il y a une coïncidence. Il y a une coïncidence. Donc, je trouve intéressant ce cas-là parce qu'on se retrouve dans un cas d'hybridation et si on n'y fait pas attention, si on ne regarde pas ça, me semble-t-il, avec ce regard que je trouve opératoire, de dire au fond, il y a deux modes politiques qui sont là en concurrence, en tension, en conflit ou non, eh bien, on ne comprend pas grand-chose. On ne comprend pas grand-chose à la dynamique, y compris, c'est à la fois des situations et c'est pas forcément un clivage. C'est pas forcément un clivage sociologique entre une jeunesse et une autre. En l'occurrence, les jeunes que j'ai observés, moi, pendant des matinées entières, au carrefour de la Haine à Saint-Denis, c'était des jeunes de banlieue, mais enfin bon, il y a des jeunes qui sont absolument pas enfants de parents défavorisés là-dedans. Ils étaient ensemble. Et puis, moi j'ai été frappé pour terminer sur le fait que dans le blocage des facs ne s'est pas levé d'un seul coup par une grande manifestation de joie en disant on a gagné. C'est-à-dire y compris la focalisation sur un mot d'ordre et un seul mot d'ordre comme élément de rassemblement et d'élargissement du mouvement aux forces fordistes syndicales classiques n'était peut-être pas le fin mot de la subjectivité de la chaîne. Donc même dans les facs, c'était pas si évident.
5 minutes 2 3
Voilà. Je trouve très intéressant d'avoir cette approche-là parce que quand on va travailler sur des situations, on va aussi travailler avec des acteurs de terrain et y compris des acteurs institutionnels. Et ça peut les aider, y compris ces acteurs-là. Donc je prendrai un exemple et pas deux, mais j'ai développé les deux exemples dans mon texte, donc ça ira. Mais voilà. Juste un exemple. À la suite des événements de novembre, la municipalité de Saint-Denis a décidé de faire des rencontres dans les quartiers avec les jeunes. J'ai assisté à quelques rencontres, il y en a une qui m'a particulièrement frappé, où l'élu est arrivé avec des jeunes qui, visiblement, étaient un peu plus vieux que ceux qui avaient volé des voitures. D'ailleurs, ils l'ont dit, c'est pas nous. Hein. On sait qui c'est. C'est nos petits frères, on n'a rien pu faire. Bon. Des jeunes qui avaient un discours, comment dire, un discours complet. C'est-à-dire qu'ils s'adressaient à un élu pour leur dire on a une conscience politique, on a des revendications politiques, ces revendications politiques, elles passent pour nous par la possibilité de faire du rap. Et on veut un local, et on veut que vous nous aidiez à prendre en main l'association du quartier. Donc un machin qui, pour une structure publique comme une municipalité, et pour une structure intellectuelle comme celle d'un élu travaillant dans une une municipalité, est impossible à démêler. Dans la mesure où il y a du politique, bon, si c'est du politique, d'accord, alors on va discuter politique. Il y a de l'occupationnel sur le terrain et associatif. Vous voulez un local associatif, bon, mais ça c'est autre chose. Il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire, etc. Il y a du commercial. Ils veulent faire un label. Ils veulent faire et disons qu'ils veulent faire un label de rap parce que pour eux, le rap, c'est personne ne peut parler à leur place et c'est leur expression politique. C'est-à-dire qu'on est devant une incapacité à répondre parce que ça ne rentre pas dans les cases administratives, une incapacité à répondre à la manifestation, à mon avis absolument évidente, du fait que le biopolitique. Et ça existe, les hypothèses que nous avons sont bonnes, et que les frontières entre le politique d'un côté, la création de richesse et de subjectivité de l'autre, et du rapport entre les gens et de la coopération, tout ça est complètement intriqué. Et donc, il ne s'agit pas d'aider ces jeunes à séparer les choses, il s'agit d'aider les municipalités ou les acteurs publics qui sont face à ça à intriquer aussi.